C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Wisconsin. Un VUS qui fond sur une foule qui participait à un défilé de Noël. Ça s'est passé hier en fin d'après-midi. Le bilan jusqu'ici, au moins 5 personnes sont décédées. On parle de dizaines de blessés. Un minimum de 40 blessés. Beaucoup d'enfants. Vous imaginez un peu la scène. Des familles réunies pour assister avec enthousiasme à ces moments précieux qui précèdent Noël. Richard Châteauvert est à New York. Alors Richard, qu'est-ce qu'on sait de cet événement?
Bon, ça s'est passé à Waukesha, près de Milwaukee. Ce défilé de Noël est une tradition annuelle à Waukesha. Vers 16h40, heure locale, le défilé était en branle. Des fanfares et autres groupes défilaient lorsqu'un VUS rouge roulant à vive allure a fauché des barricades et poursuivi sa course en direction des participants, dont un groupe appelé les grands-mères dansantes. Des témoins ont indiqué avoir entendu le bruit assourdissant du véhicule heurtant les participants un à un. Des cris et des pleurs ont été entendus. 11 adultes et 12 enfants ont été transportés dans 6 hôpitaux de la région. D'autres blessés ont été conduits à l'hôpital par des proches. Le VUS rouge a été localisé très rapidement par les policiers. D'ailleurs, un policier a tiré un coup de feu en direction du véhicule. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne digne d'intérêt est détenue par les policiers. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On ne connaît pas les motifs de l'attentat. S'agit-il de terrorisme? S'agit-il d'une personne, qui souffre d'aliénation mentale? On ne le sait pas. On va avoir plus de détails ce matin. Waukesha, il faut le souligner, est situé à 90 km au nord de Kenosha, où Kyle Rittenhouse, 18 ans, a été acquitté vendredi du meurtre de 2 personnes et des blessures infligées à une troisième dans le cadre de manifestations tenues l'été dernier contre la brutalité policière. Il ne semble pas pour le moment qu'il y ait un lien entre cet acquittement et l'incident survenu hier. Le président Joe Biden a été informé de la situation.
Bon, ça veut dire, Richard, qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur les motifs, mais il y a une chose qui est claire, c'est pas un accident, là. La personne a accéléré et foncé vers les gens qui étaient là pour la fête.
Non, c'est pas un accident du tout, Paul. On a de nombreuses vidéos qui montrent ce véhicule rouge fonçant à vive allure en fauchant des barricades. Donc, la personne voulait tuer. Pourquoi? On ne le sait pas encore. On va avoir plus de détails aujourd'hui. Enfin, qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'on l'appelle uniquement une personne digne d'intérêt? Aux États-Unis, dans le domaine criminel, il y a des témoins, des personnes dignes d'intérêt et des suspects. Normalement, quand on dit une personne digne d'intérêt, c'est qu'on ne peut pas établir de façon avec certitude qu'il s'agit vraiment du suspect, mais on croit que, on pense que c'est probablement le suspect. Qui est-il? Qui est-elle? On ne le sait pas.
Merci. On se reparle un peu plus tard, Richard Châteauvert, en direct de New York. Et Richard l'a souligné, ça arrive quelques jours après l'acquittement de Kyle Rittenhouse, qui a tué 2 personnes, en plus d'en blesser une autre. C'était des manifestations antiracistes en 2020 à Kenosha, 90 km, une heure de route entre les deux villes. Alors, acquitté vendredi, même s'il s'est promené avec une arme AR-15 en sa possession, la défense a plaidé qu'il s'était donc protégé, qu'il avait tenté de survivre, que dans un des cas, la personne était avec une arme, que l'autre l'avait frappé avec une planche à roulettes et qu'il avait utilisé son arme pour se défendre, alors que la poursuite tentait de démontrer qu'il allait là pour s'en prendre à des manifestants. Et c'est toute la question du port d'armes et de l'utilisation de l'arme dans l'espace public. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé hier à la fête de Noël puis l'acquittement? Peut-être que non, mais on verra aujourd'hui si ça change. Maintenant, journée de grève dans plusieurs CPE à compter d'aujourd'hui. Là, comme parents, vous les avez été informés, là, vous le savez, mais les membres de la CSQ vont débrayer aujourd'hui, demain et mercredi. La CSN, c'est prévu de lundi à jeudi, puis la FTQ de mardi à jeudi. Avec possibilité de grève générale illimitée à l'horizon, alors que les négociations sont rompues. On va parler avec la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, tantôt. Mais on se comprend, là. L'enjeu est le suivant. Québec est prêt à augmenter substantiellement la rémunération des éducatrices. Les syndicats disent qu'il faut que les autres membres du personnel d'un CPE obtiennent les mêmes avantages. les gens d'administration, les gens de l'entretien, de la cuisine. Et Québec dit non, pour ses employés, ce sont les augmentations reconnues pour l'équivalence dans d'autres secteurs de la fonction publique. Mais pour les éducatrices, on est prêt à faire plus et beaucoup plus. Alors, je sais que beaucoup de parents sont assez solidaires des éducatrices. Puis c'est vrai que les éducatrices ne sont pas assez payées. Ça a été pendant longtemps, et ça l'est encore parce que c'est pas tout à fait réglé, là, du cheap labor au Québec. De la main-d'œuvre à bon marché. Puis je vous donne l'exemple d'un parent à qui on va parler tantôt et qui traduit, je pense, très bien ce que des parents vivent. Il s'appelle Jean-François Paradis. Il a 4 enfants, dont 2 en garde partagée. Et c'est un fonctionnaire fédéral. Il est en télétravail. Et là, dans son cas, chaque cas est particulier, mais je vous donne le sien, là. Puisque les jours de grève sont annoncés à l'avance, il n'a pas le droit de prendre des congés pour obligation familiale. C'est pas comme si, par exemple, un des enfants était malade. Alors, message, tu t'organises ou tu prends une journée dans ta banque de congés. Mais là, il y en a 3 journées comme ça. On n'entrera pas dans le fin détail de sa vie, mais c'est compliqué. Puis c'est pas tout le monde qui peut compter sur des grands-parents prêts à s'occuper des enfants. Puis là, c'est une journée, 2 journées, 3 journées, puis peut-être plus. Puis j'ajoute à ça la complexité de gérer les écoles actuellement. Les cas de COVID, des classes qui ferment, l'enfant qui doit être testé, l'enfant qui revient, il y a des symptômes, on ne l'envoie pas, même affaire pour le CPE. C'est compliqué d'être parent dans ce contexte-là. Alors, est-ce qu'on va trouver une solution? Difficile à dire parce que c'est un choc philosophique, là. Québec dit oui aux éducatrices, mais pas pour l'ensemble des employés, puis le syndicat en fait un enjeu. Et puisqu'on parle de conflit de travail, depuis 5 heures ce matin, c'est une grève générale, entre guillemets, illimitée aux entrepôts de la Société des alcools du Québec. Quand je dis entre guillemets, c'est que il y a des pourparlers qui continuent. Côté syndical, on affirme que l'employeur aurait laissé entendre qu'il avait de bonnes propositions à faire. Bon, ça reste à quand même déterminer puis à voir. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a la période des fêtes. C'est toujours pareil, ces rapports de force-là. C'est la grosse période. Puis là, ben, le syndicat dit, si on a à sortir, c'est le temps. Les restaurateurs sont affectés. Les tablettes vont se vider en succursale. Là, il y a des rumeurs que des briseurs de grève, selon le syndicat, pourraient essayer de remplacer les travailleurs en grève. On va parler avec le syndicat un peu plus tard ce matin. Mais on se souvient, là, quand il y a eu des grèves, des fermetures dans les succursales, les gens allaient vers l'Ontario, puis tu sais, tu t'organises. Mais c'est sûr que c'est un moyen de pression qui arrive le 22 novembre à un mois de Noël, mettons que c'est pas tout à fait innocent. Bon, on poursuit avec la vaccination, c'est-à-dire que les doses, les premières doses de Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans sont arrivées. Alors, il faut juste organiser la distribution, ce qui fait que Québec va préciser les modalités. Il y aura l'école, il y aura les centres de vaccination. Les parents vont pouvoir inscrire, par exemple, tous leurs enfants là, à un même rendez-vous là, pour éviter de faire trop de voyages, trop de déplacements. Et Radio-Canada dit qu'on a aménagé les centres de vaccination de façon ludique pour que les enfants retrouvent une espèce de confort, un univers, disons, accueillant. Les intervenants sont formés pour prendre plus de temps avec les enfants qu'avec les adultes. Il y a des clowns, il y a des trucs très, très colorés, des aménagements qui ont été faits. Puis là, on va voir ce que les parents vont faire. D'après les derniers sondages, grosso modo, 60 % des parents, même ceux qui sont double vaccinés, là, 60 % des parents veulent faire vacciner leurs enfants, puis les autres hésitent, tentent de voir un peu ce qui va se passer. Puis d'autres qui comprennent mal l'enjeu de cette vaccination, pourquoi il faut le faire. Alors, ça, c'est le premier point ce matin concernant la vaccination. Le deuxième, ce qu'on a hâte de voir, c'est à quel moment Québec va augmenter la cadence pour la troisième dose. Dr. Weiss nous le dit, le temps des fêtes arrive, les rassemblements. Quand vous parlez à un professionnel de la santé de ce temps-là, là, ce qu'il vous dit, là, ils sont à peu près tous convaincus qu'au retour des fêtes, on va avoir beaucoup de cas. Moins d'hospitalisations, moins de gens très malades, mais quand même, tu sais, des gens qui vont être KO pour un bout de temps, puis certains qui vont se retrouver à l'hôpital. Puis quand vous regardez les chiffres, principalement, la forte majorité des cas à l'hôpital sont des gens non vaccinés. Point à la ligne. Donc, est-ce qu'on va offrir cette troisième dose? C'est commencé pour les plus âgés, là, 70 ans et plus, mais pour le personnel du réseau de la santé, pour les gens qui ont d'autres types de maladies ou les 50 ans et plus, à quel moment on va pouvoir offrir la vaccination? Point d'interrogation. Québec ne l'a pas précisé pour l'instant, mais beaucoup pensent que c'est quand même majeur. Et puis, en parallèle, voyez le nombre de cas quand même au Québec. On a commencé tranquillement depuis l'automne, 300, 400, 500, 600, 700. La pression demeure sous contrôle pour ce qui est du réseau de la santé. Mais quand même, c'est un nombre élevé de cas. Et puis, en Europe, ça, c'est intéressant à suivre. On a vu d'abord le confinement qui a été imposé en Autriche, minimum 10 jours, maximum 20 jours. Et au début, on imposait ce confinement aux gens qui sont non vaccinés avec, bref, des sorties plus que limitées là, pour aller à l'épicerie, pour aller se faire soigner un rendez-vous médical. Mais ça s'arrête à peu près à ça. Et là, la réplique est venue de citoyens qui sont tannés. Et on le voit beaucoup dans des pays qui ont été moins stricts ou qui ont relâché plus vite que le Québec. On voit le nombre de cas augmenter. L'Autriche est du 12 000, 14 000 cas. L'Allemagne, ça a augmenté considérablement. Les Pays-Bas, vraiment très élevés aussi. Et il y a eu des affrontements parce que les gens sont tannés des mesures, comme tout le monde. Et il y a à la fois le confinement, les restrictions, puis en même temps aussi la vaccination obligatoire. Donc, en Allemagne, c'est du 40 000 cas. Pays-Bas, je vous le disais, là, c'est autour de 20 000 cas qui sont recensés. Le Devoir, ce matin, est allé fouiller, période de 20 ans, sur le nombre de Québécois qui sont tombés sous les balles des policiers. Alors, Stéphanie Vallée et Amélie Pineda qui ont calculé là, que 81 Québécois ont été tués par des policiers. 70 % des personnes abattues en 20 ans étaient aux prises avec un problème de santé mentale reconnu. Et dans la plupart des cas, la victime est un homme armé d'un couteau en crise avec des problèmes de santé mentale, dans beaucoup de cas intoxiqué. Et également, on note une surreprésentation d'Autochtones, par exemple, puis de minorités visibles. C'est pas très étonnant en termes de portrait. C'est un peu ce qu'on voit, puis les policiers terrains vous le diront. Ceux qui sont en crise, ceux qui sont armés, pas armés, mais qui peuvent devenir dangereux. Et est-ce qu'on a les bons outils? Puis je sais qu'il y a des services de police qui tentent de regarder des approches différentes, mais c'est pas toujours facile pour les policiers. Puis là, je sais, en termes d'équipement puis de formation, pour essayer de désamorcer plutôt que de tirer. Puis je vous le dis, moi, je ne connais pas un policier qui n'est pas marqué par un événement comme celui-là. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je vais tirer, pas ce que je veux. Je vais essayer de désamorcer. Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que je sais quoi faire? » Je sais qu'il y a des unités d'intervention psychosociale, mais le temps que le monde se déploie, c'est pas toujours facile. Donc, on va y revenir ce matin, mais un chiffre quand même élevé. Bon, on va parler un peu de politique en fin de semaine, beaucoup de choses. M. Nantel, qui était député du NPD, qui passe au Parti québécois dans le célèbre comté de Marie-Victorin. Et il y avait aussi ce congrès de Québec solidaire en fin de semaine. Puis Québec solidaire, ce qui est comparable avec le Parti québécois, doit affronter les plus radicaux dans son parti. Disons, on pense que Gabriel Nadeau-Dubois, là, c'est un extrémiste total. Puis là, il a joué le rôle en fin de semaine du modéré. Là, quand les militants les plus convaincus se fixent des cibles pour la réduction des gaz à effet de serre qui doivent passer par pratiquement l'abolition des voitures, puis tu comprends, là, tu dis, mais c'est pas réaliste. Pas réaliste. Il l'a dit. Ça va être dur à atteindre. On peut-tu souhaiter, mais pas se donner ça dans le programme? Ça, c'est un exemple. L'autre exemple aussi, ça porte sur la laïcité. Puis Québec solidaire est toujours mal à l'aise. La position de Manon Massé au départ, c'était quoi? c'était pas de signe religieux pour les gens d'autorité, alors que les militants ont décidé que pas question d'appliquer la loi raciste, la loi 21, puis nous autres, on est contre ça, puis on va le dire. Fait que souvent, ils se font contredire par leur propre base militante. Savez-vous quoi? Dans un sens, c'est parfait. Parce que là, les deux peuvent se dire, Mme Massé puis M. Nadeau-Dubois, regardez, nous autres, on est du monde logique, on n'est pas fous, on n'est pas aussi extrémistes. Puis pendant ce temps-là, la CAQ dit, regardez, là, notre véritable opposition, c'est Québec solidaire. Pas pour rien qu'il y a eu cet affrontement woke-Duplessis entre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois. Et les libéraux et les péquistes sont un peu perdus comme des feuilles d'automne qui retombent sur une pelouse pendant que les deux partis se font face et préparent la bataille. C'est le meilleur adversaire pour la coalition Avenir Québec. En parlant de ça, je veux bien là, qu'on réactive les espoirs pour les gens de Québec pour un club dans la Ligue nationale. Mais entre vous et moi, on va se dire trois choses, trois vérités. D'abord, c'est un ballon. On comprend, là, c'est une distraction. Puis on l'a vu dans les caricatures en fin de semaine, puis dans les propos. Pendant qu'on a une enquête du coroner sur le désastre, l'horreur nationale dans les centres de soins de longue durée, on demande au ministre Éric Girard de s'occuper du dossier des Nordiques. Pas prioritaire, mais quand même. D'abord, la Ligue nationale de hockey n'a pas besoin de Québec. Un. Deux, si jamais un marché devait s'ouvrir, c'est pas celui de Québec qui serait priorisé. Et trois, est-ce que Pierre-Carl Péladeau veut encore avoir un club? Puis est-ce que la Ligue nationale veut de Pierre-Carl Péladeau? Il y a Bell qui est dans le décor, gros partenaire de la Ligue nationale, puis il y en a plein d'autres, pas nécessairement les plus grands amis de M. Péladeau. Est-ce que le fait qu'il était, jusqu'à tout récemment, il l'est peut-être encore, je ne sais pas, le porteur de ballon, ça nuit pour une franchise à Québec. En tout cas, c'est un enjeu. Donc, quand M. Legault nous ramène ça, puis là, les Nordiques vont revenir, puis peut-être le baseball, on comprend que c'était la semaine de la distraction, mais je pense que le monde n'est pas naïf non plus, là, on sait très bien, là. Puis c'est quoi la contribution? On demande quoi au ministre Girard d'intervenir auprès de Gary Bettman? Sérieux, là. C'est un peu bizarre, tout ça. Et également, Alain, vous en a parlé de cette vidéoconférence de Peng Shuai avec le président du CIO, Thomas Bach. Elle est toute souriante, toute radieuse. On sait qu'elle a, pour les gens qui sont pas au courant, là, affirmé qu'elle avait été agressée sexuellement par une ancienne figure dominante, un homme de 75 ans, numéro 2, vice-premier ministre chinois, avec qui elle aurait eu une relation à un moment donné intermittente, mais là, elle a dit « il m'a agressé ». Après ça, arrive ce courriel qui dit « ben finalement, non. Personne ne la voit ». Et là, bang, elle arrive. T'sais, on ne sait pas si elle a des armes. Là. C'est une image, je vous dis tout de suite, pointée vers elle, mais là, elle explique qu'elle est heureuse, puis qu'elle prend un recul, puis qu'elle est à Beijing, puis la vie est belle. Beaucoup de gens en doutent, puis beaucoup disent « les Chinois veulent récupérer l'affaire avant les Jeux olympiques ». Puis les gens du tennis disent « on aimerait ça aller la voir en personne, qu'elle puisse librement s'exprimer ».
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
Alors, Bénédicte, on a vu tous ces cas de féminicide. Et là, c'est une histoire absolument horrifiante. Une femme qui a frôlé la mort, elle a survécu. Elle a été poignardée par son ex-conjoint, ça fait 3 semaines.
Une jeune femme de 23 ans que je ne nommerai pas parce qu'il y a des enfants quand même qui sont impliqués dans cette histoire-là. Une femme vraiment résiliente qui essaie du mieux qu'elle peut là, de se remettre de ce qu'elle a vécu. Ça remonte au 29 octobre dernier. Elle a reçu 20 coups de couteau de son ex-conjoint dans leur appartement de Montréal. Elle a été blessée au poumon, au côlon. Elle a dû recevoir plusieurs transfusions, 2 opérations. Et là, après des semaines assez difficiles, souffrantes à l'hôpital, elle a pu retourner chez elle il y a quelques jours et elle a accepté de me raconter ce qui s'est passé. Son ex-conjoint, elle était avec lui depuis 7 ans. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Et là, ils se sont séparés en septembre, sont revenus ensemble, se sont reséparés. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'à ce moment-là, son ex-conjoint n'allait vraiment pas bien. Il avait des pensées noires. Ils sont allés plusieurs fois à l'urgence pour essayer de trouver de l'aide. Et 2 semaines avant le drame, ils se sont chicanés. Il l'a frappé. Lui, il a été arrêté, libéré après 4 jours de prison. Il devait consulter en psychiatrie, devait suivre une thérapie de gestion de la colère. Mais selon ce qu'elle m'expliquait, c'est que c'était difficile d'avoir accès aux ressources. Et là, 10 jours plus tard, ils étaient ensemble. Elle a vraiment rien vu venir. Il l'a attaqué avec un couteau. elle a vraiment pensé qu'elle allait y rester.
La seule chose que je pensais tout le long, c'est « je vais mourir ». Puis je pouvais pas me dire que j'allais mourir de cette façon-là, dans une chambre, toute seule, sans que personne le rencontre, tuée par le gars que je pensais qu'il était l'homme de ma vie. Puis je pensais beaucoup à mes enfants aussi là-dedans. Là. Pendant qu'il m'étranglait, je me rappelle la seule chose que je disais, « si tu me tues puis que toi, tu t'en vas en prison, nos enfants, ils auront plus rien ».
Et c'est justement ce qu'elle m'a raconté. C'est en pensant à ses enfants qu'elle a eu la force de se débattre et qu'elle a eu la force de traverser la rue pour se rendre chez le voisin.
Cette soirée-là, les gens se demandent comment j'ai fait pour traverser la rue, mais j'ai eu une poussée d'adrénaline, puis j'ai traversé la rue, puis tu sais, j'ai frappé à la porte de mon voisin le plus que je pouvais, puis après ça, je me suis juste laissée aller, je me suis couchée, puis j'ai attendu qu'on vienne me porter secours.
Et là encore aujourd'hui, c'est très difficile pour elle, évidemment. Elle reste avec l'idée que son ex-conjoint était malade, qu'il n'a pas eu l'aide dont il avait besoin. Heureusement, elle est bien entourée de sa famille. Elle a pu retrouver ses enfants. Mais c'est assez difficile d'expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Et toutes ces histoires de féminicide-là, elle les a vues passer. Jamais elle aurait pu se douter qu'elle passerait proche de s'ajouter à la liste. Et avec le recul, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il faut être plus alerte aux signes. Elle dit « j'aurais dû prendre ça plus au sérieux ».
Quand tu vois que ta relation elle commence de même, puis quand tu vois que une petite poussée puis un petit pognage de bras, reste pas là. On banalise tellement les moindres petites affaires par amour parce qu'on a peur d'être seul. Pourtant, on devrait tellement ouvrir nos yeux puis pas se laisser marcher ses pieds. Là.
Alors, son ex-conjoint, le père de ses enfants, un homme de 28 ans, va rester détenu, va revenir en cours le 18 décembre et elle focus vraiment sur aller mieux et s'occuper de ses enfants.
Et encore une fois, un autre week-end de violence à Montréal, encore des coups de feu.
Deux événements de coups de feu dans des secteurs résidentiels, entre autres du côté d'Anstic-Cartierville, samedi. Ça a été tiré en plein après-midi au coin des rues Sacville, Port-Royal-Est. Pas de blessés, mais au moins un impact de balle retrouvé, entre autres sur un immeuble, dans une fenêtre. Moi, je parlais avec des résidents hier, des résidents qui sont inquiets et qui disent c'est surtout des retraités qui habitent dans le coin. On n'a pas l'impression que ça brasse beaucoup. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en est pris dans un coin comme ici, ne comprennent pas. Et il y a aussi plusieurs coups de feu qui ont été entendu dans la nuit de samedi à dimanche dans l'arrondissement de Montréal-Nord, mais les policiers ont seulement été appelés dimanche matin. Plusieurs douilles retrouvées au sol. Pas de blessés. Ça se passe au coin de Bossuet et de la rue Lauzon. Pas d'arrestation non plus. Alors encore une fois, des événements comme ça où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe en plein quartier résidentiel?
Merci, Bénédicte.
L'essentiel de Paul Arcan.
Journée de grève aujourd'hui dans les CPE et ça varie selon l'affiliation syndicale. Alors, les éducatrices de membres de la CSQ sont en grève lundi, mardi et mercredi. Il y aura un vote de grève générale illimité qui sera pris mercredi. CSN, vous ajoutez également le jeudi. La FTQ, c'est mardi, mercredi, jeudi. Bref, les parents doivent s'organiser. Et si beaucoup de parents sont sympathiques à la cause des éducatrices, il n'en demeure pas moins que ça devient un casse-tête parce que, d'abord, c'est 2, 3, 4 jours cette semaine et ça s'ajoute à ce qui a déjà été pris, puis peut-être des moyens de pression plus importants pour les prochains jours. Entre-temps, il semble que les négociations soient rompues. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est avec nous. Maître Lebel, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Est-ce que les négos sont rompus? C'est quoi la température de l'eau?
Absolument pas. On a des rencontres de prévues demain même et mercredi avec les différents syndicats. Puis je dois dire, M. Arcan, ce matin, je comprends parfaitement bien le désarroi pour les parents. C'est majeur là, quand on parle des services de garde. Mais à ce stade-ci, en toute transparence, j'ai beaucoup de mal à suivre là, le mouvement des syndicats. On a rejoint les demandes syndicales, les demandes majeures. On a fait des pas de géant, nous, depuis le début de la négociation, depuis qu'on a déposé une offre qui était quand même très significative, une augmentation de 17% là, en juillet dernier.
Mais vous savez comment c'est pas ça l'enjeu.
Oui,
mais l'enjeu, ce sont les autres employés, les gens de cuisine, les gens d'entretien qui, pour le syndicat, la demande, c'est eux aussi doivent être bonifiés, justement. Tu sais, dans le sens que si c'est bon pour les éducatrices, c'est bon pour les autres employés du CPE.
Bon, mais ça, on peut toujours avoir ce discours-là, puis c'est ça le propre des négociations différenciées qu'on a menées dans toute transparence depuis le début de la ronde de négociation dans tous les secteurs confondus. Depuis le début, on a dit que pour que le gouvernement ait la capacité financière, la capacité de donner des augmentations substantielles dans des secteurs qui étaient ciblés, je vous rappellerai les infirmières, les enseignants du primaire, du secondaire, les PAB et les éducatrices, bien, pour être capable de rejoindre la valorisation de la profession, la valorisation du diplôme, pour être capable d'offrir le 30 $ de l'heure qu'elles réclament depuis le début, il est là. Il est sur la table. Elles l'ont pour les éducatrices qualifiées. Elles l'ont pour les éducatrices spécialisées. Elles ont le soutien pour être capable d'avoir cette capacité-là.
Mais est-ce que vous en faites une question de principe? Parce que ce que j'entends du côté syndical, c'est de dire, nous autres, là, on va signer quand les gens d'entretien, les gens d'administration, les gens de cuisine vont avoir la même chose. Donc, ce que vous me dites ce matin, c'est que c'est non.
Ils n'auront pas la même chose. Par contre, ils ont des offres intéressantes. Moi, je vous rappellerai, M. Arcand, puis je rappellerai aux parents là, que les paramètres de 6 % qui ont été attribués à l'ensemble des secteurs, les 500 000 employés de l'État, ceux qui sont sous les négociations qu'on mène, là, ont été acceptés et négociés par les mêmes syndicats qui sont présentement à la table des négociations. Et à ces 6 %-là, malgré tout, on fait un effort supplémentaire dans les CPE pour ajouter un 3 %. Donc, on est à plus de 9 % d'augmentation. Mais on a été clair, transparent. Vous savez, M. Arcand, une négociation de bonne foi, là, ça se fait des deux côtés. Et depuis le début, le gouvernement fait des pas. Et ce qui était priorisé au départ par les syndicats, qui était réclamé, c'était la valorisation de la profession d'éducatrice. Et on est d'accord. On l'a mis sur la table. Moi, je peux pas offrir 30 $ de l'heure et 23 % d'augmentation d'éducatrice si je le fais dans tous mes secteurs. Et c'est aussi, vous allez dire, c'est une question de principe, effectivement, mais c'est une question d'équité aussi.
Non, je comprends,
pour
mais
le reste de mes employés de l'État.
Moi, je suis un parent, là, puis je suis un parent, puis je vous écoute, je me dis, OK, le syndicat dit que c'est une question de principe. Vous me dites que c'est une question de principe. Là, c'est quoi vos options? C'est trouver un compromis? C'est imposer les conditions? C'est quoi?
Ben, écoutez, moi, je pense qu'on a encore, des rencontres cette semaine. Moi, j'ai toujours la volonté ferme de conclure une entente. J'ai réussi à le faire en tant que gouvernement avec 500 000 employés d'État. C'est sûr que c'est difficile, une négociation différenciée, là. C'est très complexe. Mais moi, je veux juste réitérer, les éducatrices avaient besoin d'être valorisées. Elles sont au cœur de la mission éducative du CPE. Elles étaient notre priorité. Et pour avoir la capacité financière d'offrir ce qu'on a offert aux éducatrices, on peut pas le faire à l'ensemble des gens. Puis je peux pas le faire à l'ensemble des 500 000 employés de l'État. Et cette ligne-là, je l'ai maintenue avec les enseignants, je l'ai maintenue avec les PAB, je l'ai maintenue aussi avec les infirmières. Puis si on était capable de faire des ententes, comme je le disais, significatives dans tous ces secteurs-là, c'est parce qu'on ne l'applique pas, ce genre d'augmentation-là, aux 500 000 employés de l'État. C'est une question aussi d'équité envers tout le reste des employés.
OK, ça, je comprends ça, mais... Comment je vous dirais ça? Est-ce que ça se peut que les syndicats n'aient pas tellement apprécié l'offre par-dessus leur tête que vous avez présentée avec M. Lacombe, qui est le ministre de la Famille, là, en disant, on vous donne le cash tout de suite, c'est même pas signé, c'est pas réglé, on passe par-dessus la tête des syndicats, voici l'argent. Ça se peut-tu que ça aussi, ça vient un peu, disons, refroidir les négos?
Bon, si le fait d'avoir versé une première offre gouvernementale qui était un plancher minimum parce que tout le monde était d'accord qu'il y avait une urgence d'agir pour retenir les éducatrices, les a irrités, mais je pense que là, il faut qu'ils passent par-dessus.
Mais là, il y a une plainte qui a été déposée contre vous.
Le bien des CPE. Oui, mais moi, écoutez, on n'a pas arrêté les négociations, là. L'idée, c'est que si ça avait mis fin aux négociations, je peux les comprendre. On a continué à négocier à telle enseigne qu'on est rendu à 23 % d'augmentation alors qu'on a versé le 17 %. Donc, dès le début, on a continué les pourparlers. Puis il faut pas oublier que 60 % des éducatrices qui sont non syndiquées et on a une hémorragie à stopper, il y a une urgence d'agir.
Est-ce que les montants ont été versés aux éducatrices?
Ben, je pense qu'ils sont. Je peux pas dire que ça a été fait dans l'ensemble, là, mais le mouvement est en train. On devait avoir complété la grande majorité pour novembre, le 15 novembre. Honnêtement, j'ai pas, M. Arcand, les chiffres, mais je sais que ça a commencé à être versé. Là. Il y a des gens qui ont vu l'impact sur leur paye, mais est-ce que c'est fait dans 100 % des cas? Je ne pourrais pas l'affirmer ce matin, mais on est en mouvement de le faire. C'est toujours la première offre, là, je vous le rappelle, oui. C'est pas l'entièreté. Là.
Est-ce que vous excluez une loi spéciale?
À ce stade-ci, pour moi, je continue à penser qu'on est capable de s'entendre. Je l'ai fait avec les mêmes syndicats, la CSN, la CSQ, la FTQ, qui sont concernés par les négociations dans les CPE, sont les mêmes syndicats qui ont accepté de traverser la ligne avec des niveaux différenciés dans les autres secteurs. Okay. Et je pense qu'on va trouver une solution. D'ailleurs, je le répète, on se voit encore demain, on se voit encore mercredi. Alors, les négociations ne sont pas rompues.
Merci, Maître Lebel. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Sonia Lebel est présidente du Conseil du Trésor. Et je le disais, il y a beaucoup de parents qui sont très solidaires avec le personnel des CPE, les éducatrices, parce que les conditions n'avaient pas de bon sens. Mais si d'un côté, il y a une ouverture d'esprit et une grande compréhension, de l'autre, là, il y a une réalité pour des parents qui accumulent ces journées de grève, qui doivent donc s'organiser. Je parle avec Jean-François Paradis, qui fait partie de ces parents compréhensifs, mais qui commence à être un petit peu tanné des grèves. Monsieur Paradis, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquet.
C'est vrai que vous êtes, comme beaucoup de parents, solidaires, puis que vous comprenez que les éducatrices sont sous-payées, puis qu'il est temps que ça change.
Solidaire, c'est le mot est fait, mais la génération de parents qui a des enfants en âge de fréquenter les CPE en ce moment, c'est les parents qui, quand ils étaient aux études, au cégep, à l'université, ils ont fait la grève de 2005, ils ont fait la grève de 2012. Fait que se tenir puis être solidaire, on sait ce que c'est dans ma génération de parents, puis on est entièrement derrière les éducatrices là-dessus.
Par contre, la réalité vous rattrape un peu, vous et les autres parents. On a beau être les appuyer, mais en même temps, on fait face à une organisation. Quand il y a des journées, il y en a trois cette semaine, puis peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Comment vous vous organisez pour les services de garde pour ces trois premiers jours de la semaine?
Bien, moi, j'ai été chanceux par rapport à d'autres parents parce que la dernière ronde de jours de grève, j'étais en congé de maladie parce que je venais d'avoir une chirurgie. Alors, j'étais à la maison déjà en train de récupérer de ma chirurgie, fait que j'ai pu m'occuper de petit Édouard. Mais pour les journées de cette semaine, j'ai fait une demande pour prendre ce qui me reste de congé d'obligation familiale dans ma convention collective. J'espère que ça va m'être accordé, mais il y a un gros doute parce que sinon, vu que c'était prévu, entre guillemets, il est possible qu'ils ne me les donnent pas. Sinon, je vais devoir piger dans les vacances que je me gardais pour le temps des fêtes.
OK, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des congés de prévu, puis vous êtes peut-être obligé de les prendre un peu à l'avance pour justement remplacer le CPE puis remplacer les éducatrices.
Absolument. Mais je vais profiter de ces journées-là probablement pour aller porter du café aux éducatrices.
Vous entendez, vous avez entendu Maître Lebel, il y a un enjeu qui n'est pas tant la rémunération des éducatrices, mais les autres services offerts dans un CPE, la cuisine, l'entretien, bon, l'administration. Et la position du gouvernement, c'est de dire, nous, on ne peut pas donner des augmentations identiques, même si ces gens-là travaillent au même endroit. Vous en pensez quoi, vous?
Je pense que le gouvernement provincial vient de recevoir 6 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour runner un programme qu'ils sont déjà en train d'appliquer. C'est comme de l'argent gratuit pour faire le même programme. D'autant plus que les CPE ne peuvent pas rouler sans le personnel administratif, sans le personnel d'entretien. Fait que autant relever la barre pour tout le monde dans le même palier. Puis ça, le gouvernement laisse juste la situation pourrie en ce moment, là.
Okay.
On n'a pas besoin de faire ça.
Est-ce que c'est vrai que des parents qui, comme moyen de pression, je dirais, ou en tout cas, envisagent d'aller reconduire leurs enfants dans les bureaux des députés de la Coalition Avenir Québec?
Je commence forcément à y penser, parce qu'il faut mettre un petit peu de pression sur le gouvernement. Au début, je pensais de jamais le fax du ministre, mais en 2021, c'est plus très efficace comme moyen de pression. Fait que la phase suivante de l'escalade, c'est de visiter les députés. Fait que je vais peut-être aller acheter de la gouache puis aller voir une députée de la CAQ cette semaine avec Édouard.
Puis
il y a quelques parents qui pensent à se joindre à moi, d'ailleurs.
OK. Puis s'il y a une grève générale illimitée, il y a un vote qui va se prendre mercredi. Comment vous allez vous organiser?
J'ai l'immense privilège d'être un employé permanent de la fonction publique fédérale, fait que j'ai l'opportunité de prendre un congé d'étalement qui, dans le fond, je rembourserai le congé sur le reste de l'année. S'il y a un vote de grève générale illimitée, d'une part, je vais prendre un congé d'étalement. D'autre part, je vais approcher mon syndicat pour qu'on fasse un don au fonds de grève du syndicat de la FTQ qui représente les travailleurs et travailleuses des centres de la petite enfance pour les aider.
Souhaitons en tout cas qu'il y ait un règlement le plus rapidement possible pour que justement on n'ait pas à se lancer dans... Parce que des parents qui ont, sur le plan du travail, n'ont pas nécessairement le même statut que vous. C'est plus compliqué à organiser. Il faut faire appel à des grands-parents. Bref, c'est une question logistique pour beaucoup, beaucoup de parents. Merci, M. Paradis.
Ça fait plaisir, M. Arquin.
Au revoir. Bonne journée. Jean-François Paradis, un de ses parents, vous l'avez vu, très solidaire, très non seulement compréhensif, mais qui appuie les éducatrices. Puis beaucoup de parents m'ont écrit aussi en fin de semaine en disant, c'est parce que les CPE, c'est une chose, mais on a la gestion des cas COVID à l'école. Il faut aller passer le test. Il y a des élèves qui sont renvoyés chez eux. Il y a des classes qui ferment. quand même un bon nombre de... Tu sais, tu mets tout ça ensemble, plus quand tu as des enfants dans les CPE. OK, aujourd'hui, il n'y en a pas. Demain non plus, mercredi. Là, jeudi, on ne le sait pas trop. C'est un méchant casse-tête.
L'essentiel de Paul Arcand.
Grève depuis 5 heures ce matin des employés d'entrepôt de la Société des alcools du Québec. Une grève, entre guillemets, illimitée, parce qu'en même temps, on dit qu'il y aura des pourparlers, négociations qui vont se poursuivre. Évidemment, ça ne touche pas les succursales comme telles, mais ça peut toucher directement ce qu'il y a sur les tablettes en succursale. Michel Gratton est le porte-parole à la table de négociation. Monsieur Gratton, bonjour.
Bon matin.
Est-ce que je comprends que vous avez peur des briseurs de grève? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous laisse croire que des gens pourraient remplacer les syndicats en grève?
Bon, surprise, la semaine dernière, à la table de négo, jeudi matin, l'employeur nous annonce qu'il est à la recherche d'un entrepôt avec des travailleurs pour faire exactement le travail des membres. Alors, ça s'appelle des briseurs de grève. Alors, après analyse du dossier, vendredi, samedi et dimanche, la conclusion était que la seule façon d'empêcher que ça arrive, c'était d'aller en grève illimitée.
OK, mais l'entrepôt, un entrepôt en Ontario, au Québec?
Un entrepôt, ben, l'employeur nous dit un entrepôt au Québec. Maintenant, je comprends que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre à moins cher que la nôtre. Alors, c'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'on fait la grève là. Toutefois, on a parlé à l'employeur hier, dimanche, qu'on est prêt à s'asseoir en urgence avec eux jusqu'à dimanche. Et ça va commencer demain.
OK. Donc, vous avez une confirmation qu'il y a une rencontre de négo, là?
Absolument, absolument. On tient absolument à ouvrir. On veut pas nos travailleurs sur la tarmac, sur l'asphalte. On veut pas nos travailleurs-là. On veut pas priver personne de boisson. On veut régler. C'est ce qui est la base.
OK. Ce que je comprends, là, pour que les auditeurs aient une image, le fait que vous soyez en grève, donc aux entrepôts, fait en sorte que quoi, les restaurateurs sont pas alimentés?
Tout l'alcool qui se vend au Québec passe par les entrepôts. Tout alcool qui se vend au Québec passe par les entrepôts. Alors, il y aura nécessairement une baisse de quantité de produits là, quand les tablettes seront...
En succursale et dans les restaurants, par exemple.
Partout, même dans les agences, partout. C'est nos travailleurs, c'est les 800 travailleurs qui alimentent tout ce qui est l'alcool au Québec.
OK, puis ça inclut ceux qui font, par exemple, des importations privées, ça passe par
chez
vous.
Absolument.
OK, tout ça est bloqué.
Oui.
Vous, c'est pas par hasard que ça arrive à un mois de Noël?
Ben, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard non plus, mais ça fait au moins 16 rencontres de négociations qu'on a. Et, je veux bien aller dans les clauses, comme on dit, normatives, mais après 50 ans de convention collective, le normatif est pas mal réglé, là. Alors, c'est monétaire et les demandes de l'employeur.
Okay,
alors, les demandes de l'employeur, on les a comblées. Maintenant, il reste à répondre à nos 3-4 critères.
Ça gagne combien, un employé d'entrepôt?
Ça commence à 18 $.
OK, 18 $ de l'heure.
17,80 $. Pour manipuler 12 à 15 000 kilos de bouteilles par jour, là, c'est beaucoup. Là.
OK, puis quand vous dites 18, puis ça va jusqu'à quoi?
27.
Puis vous vous comparez à qui?
Ben, il n'y a pas de comparatif. C'est une société d'État. Ben, si je vais dans ce qui est le plus proche au Québec, ça serait des compagnies de bière, par exemple. Ils sont déjà environ 32-34 dans les plus hauts salaires là, pour les cueilleurs. Alors, c'est quoi? C'est 10, 15, 20% plus cher.
OK. Est-ce que tous les postes sont comblés aux entrepôts de la SAQ ou si, comme ailleurs, il y a des problèmes de recrutement?
Bien, avant, c'était tout le monde quittait leur emploi ailleurs pour venir à la Société d'État. Quand je prends ça, il y a 10-15 ans. Maintenant, avec le recul et les pertes de conventions collectives, les gens commencent à la SAQ et dès qu'ils ont un emploi à quelque part, ils s'en vont. Alors, il y a un roulement de main-d'œuvre incroyable.
Mais est-ce que des postes vacants actuellement?
Tout le temps.
Combien?
Voilà, je vous dirais, il en engage au moins 150 par année qui quittent et qui reviennent et qui quittent et qui reviennent. Il y a beaucoup de temps supplémentaire qui se fait. Alors, puis les travailleurs sont fatigués de ça.
OK, on va suivre ça. Merci, M. Gratton.
Je vous remercie. Merci de l'appel.
Michel Gratton est le porte-parole syndical à la table de négociation. Et là, ça reprend. C'est comme les CPE qui poursuivent toujours la discussion avec le gouvernement. Bon, bien là, c'est avec la SEQ qui, rappelons-le, est un monopole. C'est un monopole pour l'ensemble de la distribution au Québec. Fait que quand le monopole est frappé par une grève, ben c'est la distribution, toutes les étapes, incluant bien sûr ce qu'il y a en succursale.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Nous sommes à moins d'un an des élections au Québec et on peut dire qu'on est carrément en campagne électorale. Le Québec solidaire était en congrès en fin de semaine. Le positionnement était clair, il l'est encore plus. C'est le parti de l'environnement avec, disent-ils, la plateforme électorale la plus verte de leur histoire. Le chef parlementaire est avec nous, Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Ça a le mérite d'être très, très clair comme positionnement. La question que les gens se posent, vous comprendrez, là, votre cible en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est une cible théorique ou c'est une cible vraiment pratique? Puis si oui, bien, comment vous allez vous y prendre pour l'atteindre?
Moi, je vais vous dire, je comprends que des gens aient des doutes quand ils voient des cibles de réduction de gaz à effet de serre, parce que dans les dernières années, tous les gouvernements ont échoué à atteindre leurs cibles. Nous, ce qu'on a décidé en fin de semaine à Québec solidaire, c'est de faire autre chose, de se donner une cible qu'on est capable d'atteindre. Comment on va l'atteindre? Mais avec de l'éco-fiscalité qui va cibler en priorité les grands pollueurs, en électrifiant encore plus rapidement les transports, puis pas juste les transports individuels, aussi les transports des marchandises. On va mettre en place un budget carbone pour qu'on planifie notre marge de manœuvre climatique d'ici 2050. On va mettre le cap sur des circuits économiques courts, notamment en agriculture. Il faut aussi faire un énorme chantier d'électrification de nos bâtiments.
Vous allez faire ça en combien de temps?
Il y a la cible de carboneutralité en 2050. Il y a la cible de réduction de 55% pour 2030. Mais au-delà des chiffres, ce qu'on s'est donné en fin de semaine, c'est un mandat clair pour développer un plan vert qui va nous permettre d'atteindre la cible fixée par la science.
Okay, mais,
parce que le fameux 55%, permettez-moi juste de finir là-dessus, on ne le sort pas de notre chapeau, là. C'est la cible que le GIEC, qui est l'instance scientifique la plus crédible au monde sur cette question-là, a donnée aux pays développés.
Mais pour ce faire, je regarde votre cible, là, je comprends que c'est celle-là, puis il y a comme deux aspects. Il y a réduire les gaz à effet de serre, puis se préparer face au changement climatique.
Exact.
Mais vous voulez faire quoi? Prenons des exemples concrets. Vous voulez réduire le parc automobile du Québec là, de 50%, de 60%, de 80%?
Il faut électrifier nos transports. Ça, c'est certain. Tout le monde est d'accord. Nous, on pense qu'en 2030, là, tous les véhicules vendus au Québec devraient être... En fait, il ne devrait plus y avoir de véhicules à essence traditionnelle de vendus. C'est une cible qui est réaliste, qui est atteignable.
Mais le nombre, le volume de véhicules, vous voulez le réduire?
Je pense qu'il faut certainement limiter la croissance du parc automobile. Nous, on a 11 mois, là, pour développer le plan vert qui va nous permettre, mesure par mesure, et elles vont toutes être chiffrées, de faire la démonstration que cette cible-là est atteignable. Mais cette cible-là, puis c'est important pour moi de le répéter, on ne le sort pas de notre chapeau.
Non, je comprends la cible, mais moi, ce sont toujours les moyens. On peut avoir les plus beaux objectifs au monde. Mais si on fait des calculs rapides, ça veut dire fermer des usines polluantes, ça veut dire réduire de façon spectaculaire le nombre de véhicules dans le parc automobile du Québec, ça veut dire imposer des... Autrement dit, ce que la CAQ va vous répondre, vous voulez plonger le Québec en crise économique?
C'est en effet ce que la CAQ nous répond. C'est ce que la garde rapprochée du premier ministre a répété toute la fin de semaine. Et nous, on tombe pas là-dedans. On tombe pas dans ce vieux discours tellement dépassé qui oppose l'économie et l'environnement. Tous les économistes sérieux s'entendent pour dire que la transition juste, là, la lutte au changement climatique, c'est une occasion de la développer, notre économie, pas de la réduire, notamment dans la région, dans les régions.
Mais là,
où on a de l'ambition, on pense que le Québec devrait être parmi les champions du monde en matière de lutte au changement climatique, pas juste les moins pires en Amérique du Nord, puis ça tombe bien. L'énergie renouvelable, là, ça nous sort par les oreilles au Québec. On en a à vendre.
Oui, mais
il faut utiliser cet avantage-là pour être en avant de la parade en matière de lutte au changement climatique.
Mais ça, là, tous les partis me disent ça. Là. Tous les partis ont le même objectif. il y a une question de calendrier, ce qui est possible, faisable sur un espace ou un horizon de 5 ans, c'est une chose, 2050, c'en est une autre, mais j'allais vous dire, vous, vous n'êtes pas le chef de Québec solidaire, vous êtes le porte-parole de Québec solidaire, fait que vous n'avez pas le choix de défendre même des mesures qui, j'ai cru comprendre en fin de semaine, au départ, étaient, à votre analyse, un peu radicales.
Je sais pas. Pouvez-vous me donner un exemple?
Ben, au début, il voulait pas aller à 65%. Vous avez ramené ça à 55.
Exactement. Il y a des militants militantes. Et il y a d'ailleurs une étude récente appuyée par à peu près tous les groupes écologistes du Québec qui demandait que le Québec réduise de 65% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le Congrès a voté et le Congrès a voté de mettre plutôt un plancher à 55%. Moi, c'était l'option que je privilégiais. C'est celle que je défends avec vous ce matin, parce que je pense que cette proposition-là, c'est le juste milieu entre les exigences de la science et les propositions qui étaient parfois encore plus ambitieuses d'aller jusqu'à 65%. Cette cible-là, c'est une cible qui est en équilibre entre l'ambition qu'il faut avoir et la faisabilité des mesures. Parce qu'on ne peut pas sacrifier la faisabilité sur l'autel de l'ambition. Il faut faire les deux, et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine année. Et on va faire la démonstration aux Québécois qu'au Québec, on est capable d'être les meilleurs au monde. On n'est pas condamné.
Attention, là, ce que vous venez de dire, là, c'est le slogan de M. Legault. Là. Il répète ça tout le temps qu'on est capable. Vous venez de prendre le même slogan que M. Legault.
Ouais, sauf que lui, il veut faire un troisième lien à 10 milliards qui va empirer la congestion et la pollution dans la région de Québec.
OK. Entre vous et moi, ça fait-tu votre affaire d'avoir des marxistes dans le parti, d'avoir du monde bien, bien à gauche qui vous font passer pour quelqu'un d'un peu plus modéré en disant « On a notre gang de fous, nous autres aussi, là. Mais finalement, regardez, Manon et moi, puis les autres, Vincent Marissal, on n'est pas si pire. »
On peut pas empêcher les gens d'aller donner leur opinion non. dans une instance, puis c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les choses qui sont dites, c'est les décisions qui sont prises. Puis sur la question de la plateforme électorale, qui était le cœur de notre congrès en fin de semaine, les militants, les membres de Québec solidaire ont répondu à l'appel qu'on avait lancé. Cet appel-là, c'était d'avoir une plateforme plus courte, plus concrète, plus collée sur les préoccupations quotidiennes des gens. Et le résultat des courses ce matin, c'est qu'on aura une okay. plateforme électorale crédible, construite sur deux grands piliers. Oui, l'environnement, dont on a beaucoup parlé, et aussi la qualité de vie des jeunes familles, qui est, selon nous, l'autre grande priorité au Québec.
OK. L'autre chose, juste comprendre, là, sur le dossier de la laïcité, Québec solidaire oui. était Bouchard-Taylor, donc pas de signe religieux pour les gens en autorité. Là, est-ce que je comprends que ça ne sera pas un enjeu? Vous n'en parlerez pas durant la campagne électorale. Il y a des membres pour qui la loi elle-même, incluant les gens en autorité, ça a été canné par le parti. C'est quoi la position de Québec solidaire sur la laïcité?
Ce qu'on a adopté en fin de semaine, c'est notre plateforme électorale. Autrement dit, nos priorités pour la prochaine campagne. Et la loi 21 n'en fera pas partie.
Mais c'est quoi votre position sur la laïcité?
La laïcité, notre position, elle ne change pas. Notre opinion sur la loi 21 ne change pas. On trouve que c'est une mauvaise loi. On est contre la loi 21. On trouve que c'est une loi qui incarne mal la laïcité. Mais ce que les membres de Québec solidaire nous ont donné comme mission, pardonnez-moi l'expression, en fin de semaine, c'est de dire, c'est pas là-dessus qu'on veut faire la prochaine campagne
électorale. OK, mais j'aimerais savoir...
On veut faire la prochaine campagne sur l'environnement puis sur la qualité de vie des jeunes.
Mais ça, on vient d'en parler, je pense, beaucoup. Mais ouais. moi, je veux savoir, là, c'est quoi la position de Québec solidaire? Vous êtes Bouchard, Taylor ou pas pantoute?
Nous, depuis l'adoption de la loi 21, notre position a toujours été la même.
Laquelle?
On est contre la loi 21. On pense qu'interdire, par exemple...
Mais êtes-vous Bouchard Taylor ou vous ne l'êtes pas?
Non, ce n'est pas la position de Québec solidaire. Ce n'est pas la position de Québec solidaire.
Ça l'a déjà été, M. Lébu, c'est ça?
Ça l'a été jusqu'en 2019. Donc, il y a 2 ans, Québec solidaire a décidé de tirer un trait sur ces débats-là et de dire, selon nous... Tout le monde devrait pouvoir aller enseigner okay. dans nos écoles publiques. On ne peut pas se permettre, au nom d'une soi-disant laïcité, de se priver de femmes qui veulent aller enseigner dans nos écoles publiques.
Là, je ne parle pas des écoles. Moi, je vous parle des juges, je vous parle de policiers, je parle de gens en autorité, là, plus que des profs. Là.
Ben, la loi 21 couvre l'ensemble de ces gens-là et les enseignants. C'est.
OK, donc vous ne parlerez pas de laïcité, à moins qu'on vous interpelle là-dessus.
On va avoir une position, mais est-ce que ce sera notre priorité? Non. Quand on fait un plan de match électoral, on choisit c'est quoi nos principaux chevaux de bataille.
Et les membres de Québec solidaire, en fin de semaine, nous ont dit...
Non, mais une fois que vous arrivez... Mettons que vous arrivez au pouvoir, vous allez faire quoi? Vous allez abolir la loi 21? Vous allez la remplacer? Qu'est-ce que vous allez faire?
Il y a plusieurs options. On pourrait déposer un nouveau projet de loi. On pourrait modifier la loi actuelle. Il y a la question des clauses dérogatoires. Nos membres, en fin de semaine, ont décidé de ne pas s'enfarger dans ces détails-là puis de nous faire confiance comme direction politique pour développer la bonne mécanique juridique pour y arriver. Okay. Mais sur le fond, notre position, elle est claire. Québec solidaire est contre la loi 21.
Monsieur Nadeau-Dubois, merci. Bonne journée.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Gabriel Nadeau-Dubois est donc le leader à l'Assemblée nationale de Québec solidaire.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est